Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Les pensées de Pascal constituent une admirable méditation sur la misère de l'homme. Nous lisons aujourd'hui de nouveaux fragments consacrés à l'orgueil. Je prends le fragment ici, 145, je le lis. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable. Et si nous avons ou la tranquillité, ou la générosité, ou la fidélité, nous nous empressons de le faire savoir, afin d'attacher ces vertus-là à notre autre être, et les détacherions plutôt de nous pour les joindre à l'autre. Nous serions de bon cœur, poltrons, pour en acquérir la réputation d'être vaillants. Grande marque du néant de notre propre être, de n'être pas satisfait de l'un sans l'autre, et d'échanger souvent l'un pour l'autre. Car qui ne mourrait pour conserver son honneur, celui-là serait infâme. Reprenons et méditons ce magnifique extrait de Pascal. Il nous fait voir ici le jeu entre l'être et le paraître, la scission, l'abîme qui sépare l'être du paraître. De nombreux moralistes après lui s'inspireront de ce fragment et accentueront tel ou tel point de la question. Que montre Pascal ? D'abord, un point qui pour l'instant reste un peu énigmatique, qui est le suivant. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Chacun d'entre nous est, et chacun donc a reçu en propre un être. Et voilà l'étonnant, je, en première personne, je ne peux pas me contenter de l'être qui est le mien. L'être qui est le mien, l'être, cet être véritable qui est le mien, ne me donne pas le contentement, la joie. Je ne peux pas non plus me contenter de la vie que j'ai en nous. Alors, il faudra nous demander d'où vient le fait que nous ne nous contentons pas de notre être, de la vie que nous avons au propre. Et quel est donc maintenant l'autre point du fait ? C'est que nous ne nous contentons pas de notre vie propre, de notre être propre, et que nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire. Et à cette fin, nous nous efforçons de paraître. Voilà. Vous voyez bien ici l'opposition entre l'être et le paraître. J'ai reçu en propre un être, j'ai une vie qui est la mienne, et voilà que je devrais être content d'exister, d'être content et heureux d'éprouver la vie qui est la mienne dans toutes ses dimensions. Mais voilà que je ne peux pas jouir de la vie qui est la mienne, de l'être qui est le mien. Qu'est-ce que je cherche alors ? Eh bien, je cherche à paraître. Et là, c'est autrui qui entre en scène. Je voudrais vivre dans la pensée des autres, dans l'imaginaire des autres, d'une vie imaginaire. La distorsion entre l'être et le paraître est une distorsion entre l'être et l'imaginaire. Par là, nous retrouvons d'ailleurs la méditation de Pascal sur l'imagination, la puissance de l'imagination, la puissance trompeuse. Que faisons-nous alors ? Eh bien, si nous nous disons toujours en première personne, cela veut dire que chacun d'entre nous, ou moi, je cherche à faire surgir en autrui des images, je cherche à paraître aux yeux d'autrui et par conséquent j'abandonne mon être propre. Au lieu de chercher à augmenter, à confirmer, à déployer mon être propre, la vie qui est la mienne, avec toutes ses potentialités physiques, intellectuelles, imaginaires, la sensibilité, tout cela, eh bien j'abandonne mon être propre, celui que je suis pour de bon, et je le fais au profit de mon être imaginaire. Et donc je passe tout mon temps et je mets tous mes soins à entretenir, non pas la vie qui est la mienne, mais une vie imaginaire que je jette à la face d'autrui. Je veux paraître au regard d'autrui. Et nous voyons donc ici l'abandon de l'être pour le paraître. Voulant paraître au regard d'autrui, je ne me soucie plus de ce que je suis véritablement. Pascal continue. Nous travaillons incessamment veut dire sans cesse, à embellir et à conserver notre être imaginaire, et nous négligeons le véritable. Nous négligeons le véritable, ça veut dire que mon être véritable, celui que je suis, et que j'ai à être, à continuer d'être, avec tout ce que cela implique en termes d'amélioration morale, de connaissance de ses défauts, de ses vices, etc. Mon être véritable, dans sa bonté originaire et dans ses potentialités, tout cela, je l'abandonne. Et qu'est-ce que je fais à la place ? Eh bien, je travaille, nous travaillons sans arrêt à embellir notre être imaginaire et à conserver notre être imaginaire. Voilà donc une sorte de folie ou de chose étrange de la part de l'homme, négliger la vie qui est la sienne en vérité et s'employer à embellir et à conserver de l'imaginaire, du vent, quelque chose qui n'a pas de consistance et qui n'a pas de vérité. Puisque nous voyons bien que notre être propre, puisqu'il est négligé, justement, et devient comme un champ en friche, ou devient quelque chose que finalement nous perdons même de vue. Nous ne voyons plus, nous ne sentons plus notre être véritable, étant tout attaché, tout consacré à l'entretien de cet être imaginaire que nous voulons susciter aux yeux d'autrui. Nous négligeons notre vie véritable. Pascal continue en montrant que si nous avons un certain nombre de vertus ou d'états, par exemple la tranquillité de l'âme, ou la générosité, avec le souvenir cartésien du terme, ou la fidélité, nous ne nous contentons pas, par exemple, d'être fidèles, mais nous cherchons à le faire savoir. Donc l'important ici n'est pas que je sois fidèle, mais qu'on le sache, que ce soit publié, que ce soit su par autrui. Alors nous voyons bien à quel point aussi ce que dit Pascal est bien sûr profond, et à quel point les réseaux sociaux, la télévision, les selfies, toute notre civilisation d'aujourd'hui ne fait qu'accentuer, qu'amplifier et qu'aggraver en fait la situation. Puisque ce qui compte, ce n'est pas que nous soyons ceci ou cela, c'est que nous le fassions croire à autrui, c'est que nous jetions à autrui une image à laquelle nous finirons peut-être par croire nous-mêmes, une image de nous-mêmes, mais une image qui finalement est fausse, qui est une pure illusion à l'endroit d'autrui et sans doute aussi finalement à nos propres yeux. Donc si nous avons par exemple de la tranquillité, nous nous empressons de le faire savoir. Ce qui compte, ce n'est pas d'être fidèle, d'être généreux ou d'être tranquille, on pourrait prendre d'autres exemples, d'autres vertus. Ce qui compte, c'est de le faire savoir. Et non pas de le faire savoir en conservant, parce que ce serait un bien. Vous avez la fidélité et vous conservez cette fidélité, vous l'entretenez, vous la conservez et en même temps, vous le faites savoir. Non, le danger, c'est que parce que ce qui compte, c'est le faire savoir, c'est l'image qu'autrui gardera de moi, le danger, c'est qu'à ce moment-là, je tombe précisément dans le pur et simple paraître, au sens de l'apparence. Le danger, donc, ce sera que finalement, puisque ce qui compte, c'est le regard qu'autrui aura de moi, sur moi, ce qui compte, ce n'est pas que je sois fidèle, généreux, tranquille ou autre, ce qui compte, c'est que autrui me croit fidèle, généreux, tranquille, qu'il ait cette image de moi. Et voilà donc comment, en m'empressant de faire savoir une qualité que j'ai, qui peut être une qualité véritable, je perdrai paradoxalement cette qualité, puisque je finirai par m'attacher à l'image qu'autrui en aura, en me détachant de la réalité. Il faut donc, comme dit Pascal, attacher ces vertus-là à notre autre être. Magnifique formule, notre autre être. Un être qui n'est que de paraître, un être qui n'est pas un être, un être qui est un néant, un être qui est une apparence jetée à autrui. Et Pascal continue en montrant que nous sommes prêts à détacher ces vraies qualités de nous pour les joindre à notre autre être, à cet être imaginaire, une fois de plus parce que ce qui importe, c'est justement ce regard d'autrui, et ce qui veut dire que la vie sociale consiste à être sans cesse sous le regard d'autrui, et parce que nous sommes sous le regard d'autrui, nous cherchons toujours non plus à être, mais à paraître aux yeux d'autrui. Rousseau se souviendra de cela et montrera justement cette scission de l'être et du paraître dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Pascal conclut ce point en montrant que nous sommes prêts à être lâches, pourvu que par là nous puissions acquérir la réputation d'être courageux. Et nous arrivons ici à un magnifique oxymore de Pascal que j'ai lu quand il dit « grande marque du néant de notre propre être ». Si je simplifie la formule, Pascal parle du néant de notre être. C'est bien là un oxymore, l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Ici donc il est question du néant de notre être. L'être de l'homme est un néant. Et nous avons là l'explication du mystère que je signalais au commencement. Qu'est-ce qui permet de comprendre que nous puissions chercher le paraître en oubliant l'être? Qu'est-ce qui permet de comprendre que nous ne nous contentions pas de notre être véritable? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de mon être véritable? C'est parce que cet être est néant. C'est parce que cet être est devenu vide, vain, insignifiant, et par conséquent, je ne peux pas faire fond, je ne peux pas m'appuyer, je ne peux même pas me reposer dans mon être, puisque cet être est un néant. Par conséquent, je ne peux pas être satisfait de l'un sans l'autre. Je ne peux pas être satisfait de mon être qui est un néant, sans comme essayer de me raccrocher à un autre néant, mais dont je ne vois pas qu'il est un néant, sauf si je suis vigilant, c'est à savoir cet être imaginaire. Et par conséquent, donc, j'échange souvent l'un pour l'autre. Pascal conclut en montrant que celui qui ne serait pas prêt à mourir pour conserver son honneur, celui-là serait infâme. Il aurait bel et bien perdu toute sa renommée.
Penseur chrétien, Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous continuons notre méditation avec Blaise Pascal, et cette méditation du jour porte sur l'orgueil et l'esprit de vanité. Un nouveau fragment s'intitule « La gloire ». Et Pascal est attentif ici à l'éducation. Je cite « L'admiration gâte tout dès l'enfance. Oh, que cela est bien dit !» Oh, qu'il a bien fait, oh, qu'il est sage, etc. Les enfants de Port-Royal, auxquels on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire, tombent dans la nonchalance. Fin du fragment. Fragment admirable. L'admiration gâte tout dès l'enfance. Cela veut dire donc qu'en flattant les enfants, en les admirant, finalement nous les gâtons. Pascal prend quelques exemples très simples, comme il a bien parlé, comme elle est belle, comme il est beau, comme il est gentil, comme il est sage, etc. Et donc, nous faisons compliment aux enfants de leur parole, de leur attitude, de leur silence aussi. Et par tous ces compliments, nous croyons bien faire. Or, Pascal souligne le fait que ces compliments, qui sont souvent des flatteries, gâtent tout. Et gâtent tout dès l'enfance. Ça veut dire donc que une certaine perversité ne viendra pas tardivement dans l'âge de la maturité, mais commence très tôt, dès l'enfance. Et cela commence par cette flatterie des parents à l'égard des enfants. Alors, nous avons remarqué que le fragment porte le titre « La gloire ». Cela veut dire que la gloire s'est métamorphosée par déchéance en orgueil. La gloire qui devait être celle d'Adam, qui était celle d'Adam dans l'état d'avant la chute, se renverse maintenant en orgueil. Et cet orgueil, justement, est placé dans le cœur de l'enfant par une certaine éducation qui consiste en l'admiration. Les parents, en admirant leurs enfants, gâtent leurs enfants et transforment ce qui devrait être, ce qui eût dû être ou ce qui a été une gloire de l'enfant, pas seulement la gloire de mon père ou la gloire de ma mère, mais la gloire de mes enfants, cette gloire de l'enfant se renverse en un orgueil. Ayant été flatté, admiré, glorifié, l'enfant en devient orgueilleux. Oh, que cela est bien dit, et voilà que l'enfant en croit qu'effectivement, tout ce qu'il dit est bien, tout ce qu'il fait est bien, etc. Donc nous avons ici, dans la première partie du fragment, ce qui apparaît bien comme une charge contre cette admiration. Et nous sommes prêts, ayant lu cette première partie, à conclure qu'il faudrait cesser d'admirer les enfants, cesser de leur faire compliments. Tu as bien fait tes leçons, il n'y a rien à redire, tu n'as fait que ton devoir, tu n'as fait que ce qu'il fallait faire, puisque tu es collégien, à l'école primaire, etc. Donc apparemment, voilà Pascal qui nous conseille de cesser d'admirer, de cesser de flatter, peut-être même de cesser d'encourager les enfants. Mais la seconde partie du fragment renverse cela de nouveau, en nous montrant que nous courions alors un autre danger. Il fait référence ici aux enfants élevés dans le cadre de Port-Royal, l'abbaye Port-Royal des Champs, les solitaires. Et effectivement, donc là, une éducation extrêmement sévère, extrêmement stricte, rigoureuse, faisait que l'on ne donnait point de flatterie à l'enfant, point de félicitations, point d'admiration, avec un discours extrêmement sobre. Il est en effet possible de dire à l'enfant simplement ben, « c'est ce que tu as fait, c'est ce qu'il fallait faire, point ». Mais ce que Pascal, avec beaucoup de finesse psychologique, souligne, c'est le fait qu'alors, en n'admirant pas l'enfant, en ne le mettant pas en valeur pour ce qu'il a fait, eh bien, nous enlevons quelque chose qui est un vice. Mais le paradoxe, c'est que ce vice, pour l'homme déchu, pour l'homme post-lapsaire, est nécessaire à sa situation nouvelle. On ne donne point, dit Pascal, cet aiguillon d'envie et de gloire. Voilà, l'envie. Aiguillon d'envie et de gloire. Ça veut dire que, en n'admirant pas l'enfant, en ne faisant pas de compliments, on ne suscite pas en lui ce désir d'être admiré, ce désir de gloire, ce désir que nous avons vu dans la première partie de l'émission aujourd'hui, de vivre une vie imaginaire dans l'imagination d'autrui. Alors, l'envie est un vice. L'envie, c'est le fait de désirer des biens que nous n'avons pas et qu'autrui possède, et même de ne pas supporter qu'autrui les possède alors que nous ne les possédons pas. Voilà donc l'envie qui est bel et bien un vice, et cet amour de la gloire qui est en fait un amour de la vaine gloire, c'est de l'orgueil. Voilà bien que, en n'admirant pas les enfants, on ne leur donne pas cet aiguillon. Qu'en découle-t-il ? Eh bien, Pascal l'a dit, ces enfants tombent dans la nonchalance. Nous avons donc ici deux écueils. Le premier écueil, c'est l'admiration, mais l'admiration gâte tout dès l'enfance. Le second écueil, c'est l'absence d'admiration. Mais, de nouveau, c'est bel et bien un écueil, puisque ces enfants tombent dans la nonchalance. Alors, que veut dire Pascal avec la nonchalance ? Il veut dire simplement que si vous enlevez à l'enfant et à l'écolier le désir de gloire, le désir d'être le premier de la classe, le désir d'être le premier au concours, au conservatoire, d'être parmi les meilleurs de ceux qui jouent de tel ou tel instrument, si vous enlevez à l'école, finalement, cet aiguillon de gloire, de désir de gloire, eh bien, les enfants tombent dans la nonchalance. La nonchalance, c'est-à-dire l'absence d'effort, l'absence de goût de l'effort, et finalement, donc, dans l'immobilité ou l'endormissement, on pourrait dire aussi. Et cela me paraît extrêmement fécond aussi pour comprendre notre époque, notre école, je veux dire, l'école de notre époque. C'est-à-dire que effectivement, on a voulu enlever l'admiration. Il n'y a plus de distribution de prix, il n'y a plus de prix. On finit même par enlever les notes, puisque les mauvaises notes sont censées être traumatisantes pour les enfants. Mais à force d'enlever tout aiguillon qui fait que, suscité par cet aiguillon, l'enfant voudra exceller, eh bien, on fait tomber les enfants dans l'ennui au sens courant, dans la nonchalance au sens de Pascal. Et l'enfant à l'école va à l'école, mais il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'aiguillon, et par conséquent, il s'endort. Et il peut laisser passer le temps indéfiniment. Voilà donc une école qui meurt de ne plus vouloir susciter le désir de gloire. Et nous voyons donc Pascal extrêmement subtil, parce que s'il est un grand moraliste, il n'est pas simplement là pour condamner. Parce qu'il pourrait ici, on voit bien, le moraliste est tenté de condamner cette vaine gloire, cet esprit de vanité. La vanité, rappelons-nous, l'origine c'est le mot latin vanus, qui veut dire ce qui est vide, ce qui est vain. Donc évidemment, le moraliste ne peut être que tenté de condamner cette vanité. Et l'étonnant, c'est que cette vanité, cet esprit de vanité, est infiniment précieux à notre humanité. Pascal persévère dans la même veine avec d'autres fragments que je lis rapidement. L'un d'entre eux s'intitule « Du désir d'être estimé de ceux avec qui l'on est ». Je lis « L'orgueil nous tient d'une possession si naturelle, au milieu de nos misères, de nos erreurs, etc. Nous perdons encore la vie avec joie, pourvu qu'on en parle ». C'est toujours un peu le même thème. Nous sommes capables d'aller jusqu'à perdre la vie, sacrifier notre vie, pourvu que cela nous donne l'acquisition de la gloire, pourvu qu'on en parle. Donc nous voyons comment ici il y a quelque chose, bizarrement, à la fois de sain et de malsain, de vrai et de faux. Le désir de gloire, pour Pascal, n'a rien de malsain. Il est, même en fait, nous le verrons plus tard, l'indice de notre nature première, l'indice du statut d'Adam, vivant auprès de Dieu. Ce désir de gloire, donc, garde quelque chose de sain, S-A-I-N. Et le malheur, c'est que ce désir de gloire peut conduire à quelque chose d'aberrant ou peut se renverser dans son contraire. Nous voyons ici donc que l'orgueil nous tient d'une possession tellement naturelle que, alors naturelle c'est toujours nature, la nature déchue évidemment, la seconde nature, que justement nous sommes au milieu de nos misères, de nos erreurs et nous sommes capables de perdre la vie avec joie pourvu que cela soit su. Pascal continue en disant « Vanité, de point, jeu, verbe jouer, chasse, visite, comédie, fausse perpétuité de nom. » Voilà, tout cela est vanité. Nous retrouvons l'enseignement de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. La vanité, le jeu, là aussi, regardons l'importance du jeu dans nos sociétés, mais cela n'est pas nouveau. Dans toutes les sociétés, les hommes ont aimé jouer. Nous avons retrouvé, si vous vous rappelez, en Égypte, dans la Grèce antique, à Rome, au Moyen-Âge, enfin à toutes les époques, il y a eu des jeux, le jeu d'échecs aujourd'hui, pensons à lui par exemple, le football, etc. Voilà, le jeu, la chasse, les comédies, la fausse perpétuité de nom, tout cela nous montre la vanité de l'homme. Et le paradoxe, c'est que dans cette vanité persiste quelque chose d'excellent, ou plutôt que cette vanité est l'indice de la persistance de quelque chose d'excellent, qui est la bonté originaire de l'homme. J'enchaîne avec un paragraphe qui reprend un peu le même thème. Je lis « Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l'estime de 5 ou 6 personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente. » Voilà donc ici un orgueil de l'homme qui fait que chacun voudrait être connu de toute la terre. Et en même temps, vous voyez toujours cette finesse de Pascal, renversement d'une chose en son contraire. Apparemment, voilà, c'est cela l'homme, et rien que cela, la présomption, la vanité, vouloir être connu de toute la terre. Et en même temps, cela se renverse aussitôt en son contraire. Du fait de la vanité, une fois de plus, du néant de notre être, c'est que si nous aspirons à être connus de toute la terre, être connus de 3 ou 4, 5 ou 6 personnes, cela nous amuse, cela nous contente, et c'est-à-dire que cela nous suffit. Fragment suivant qui reprend le même point. Les villes par où l'on passe, on ne se soucie pas d'y être estimé, mais quand on y doit demeurer un peu de temps, on s'en soucie. Combien de temps faut-il ? Demande Pascal. Réponse, un temps proportionné à notre durée vanéchétive. Donc une nuit dans une auberge ne fait pas que nous soucions d'y être estimé, d'être reconnu. Coucou, c'est moi, je suis là, vous avez vu, etc. Mais dès lors que nous demeurons un certain temps, et pour certains qui sont les plus vaniteux, demeurer une nuit de passage dans un hôtel exigera à leurs yeux quand même d'être reconnu. Ce n'est pas n'importe qui passe, c'est moi. Vous avez vu que je suis bel et bien là.